Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
Les petits et les grands lisent en même temps. L'émission qui parle littérature jeunesse un mercredi sur deux sur Jet FM 91.2.
Alexandra Lucchesi, bonjour. Vous êtes l'autrice avec Laura Hédon de l'album Le Pense-Cœur, un album jeunesse aux éditions Pour Penser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, bonjour. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir concrétiser ce rêve d'écriture que j'avais avec les éditions Pour Penser. Et le premier tome est paru en 2020 et le deuxième en 2021. Et effectivement, ça a été illustré par Laura Hédon, qui a été raccordée à ce projet par la maison d'édition Pour Penser avec bonheur, parce que je trouve qu'on s'est bien trouvé et que nos deux univers se sont bellement rencontrés à travers de ce projet.
Ça marche très bien. Alors, comment est né ce livre? Il y a une petite introduction au départ qu'on lira peut-être, hein, si tu es d'accord. Comment est née l'idée de ce livre, de réparer un peu les enfants avec des histoires? D'où ça vient?
C'est-à-dire que je suis devenue mère. Déjà, ça a beaucoup joué. J'ai eu envie de. Moi, je suis autrice de théâtre, c'est ma première casquette. Et puis, j'ai eu envie de. Enfin, le théâtre, c'est merveilleux. C'est un très beau médium vers le collectif et j'aime beaucoup ça, mais à ce moment de ma vie où je suis devenue maman, j'ai eu envie de m'emparer d'un projet seul. Et il se trouve que l'écriture me permettait de le faire. Et donc j'ai eu envie de créer un objet pour les enfants, pour les miens, mais aussi pour moi-même. En fait, j'ai pensé à un objet littéraire dont j'aurais eu besoin quand j'étais petite. Voilà, j'ai vraiment répondu à ça. Je me suis sondée moi en tant que, avec ma mémoire d'enfant. J'ai conçu l'objet que j'aurais aimé avoir entre les mains quand j'étais petite. C'est ça, la genèse du projet.
D'accord, on en lira un petit bout tout à l'heure. En fait, pour moi, Le Pense-Cœur, c'est un album qui sert de pansement pour le cœur des enfants qui ont du mal à grandir, des fois tellement c'est difficile. Est-ce que c'est un petit peu ça l'idée? Ou est-ce que, y a d'autres choses, que j'ai oubliées?
Non, c'est assez chouettement résumé. Effectivement, moi, j'ai dit que ce sont des contes sparadrap et c'est tout à fait ça. J'avais vraiment l'idée d'une petite mallette de secours littéraire qu'on pourrait ouvrir pour, et puis, en fonction des chagrins rencontrés, pouvoir les explorer et puis s'en servir pour aller un petit peu mieux. La seule chose, c'est que c'est vraiment un ouvrage, ce n'est pas que pour les enfants, c'est un ouvrage pensé pour plusieurs générations. Pour réunir les parents, les grands-parents, et puis tous ceux qui gravitent autour des enfants, ceux qui les aiment en fait, pour pouvoir s'emparer de ces questions qui sont pas évidentes, qui grattent, qu'on a envie d'enfouir sous le tapis de nos pensées parce que ce sont des sujets complexes. Mais moi, je trouve ça chouette de pouvoir les apprivoiser ensemble, enfants, parents, grands-parents, et puis toute la sphère affective de l'enfant. C'est pas si souvent qu'on a l'occasion de pouvoir échanger sur des sujets qui nous concernent tous, mais encore une fois qu'on a du mal à amener frontalement dans la discussion. Là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir réunir les gens et de les fédérer autour de ces questions existentielles.
Ça marche. C'est vrai que c'est un livre qui se lit en famille, comme une boîte à outils de famille, voilà, pour résoudre les problèmes ensemble. Est-ce que tu veux nous en lire un passage? Moi, j'en ai un aussi que je pourrais lire. Est-ce qu'il y a un passage que tu as choisi que tu veux nous lire?
Eh bien, il y en a un, mais je suis curieuse de savoir lequel tu as choisi, à dire vrai, si je veux bien.
Ouais, alors avec plaisir. En fait, moi, j'ai choisi tout simplement l'introduction que tu fais avant de commencer l'histoire. Je vais la lire. Moi, je la trouve très jolie, cette introduction. Chère jeunesse, cher cœur nouvellement déployé, chers aventuriers de l'humanité et chers grands-parents, accompagnants, aimants, depuis longtemps vivants, ces lignes vous sont dédiées. L'enfance est un pays à protéger de toutes nos forces, avec les ongles, avec les dents, avec les pieds. Veillons sur les premières blessures, les premières cicatrices. Soyons attentifs aux chagrins, ces pluies, ces vents qui ratissent l'âme de long en large. Ce sont des rites de passage, des étapes parfois nécessaires et toujours structurantes qui architecturent un être en devenir. Quand je pense aux enfants de ce monde, mon cœur déborde de tendresse. Je leur souhaite la paix, des rires en pagaille, l'estime d'eux-mêmes et l'amour à profusion. Mais quel que soit le visage qu'elle revêt, Personne n'est épargné par l'expérience de la souffrance. Voilà, je vais pas tout lire, mais l'introduction à ce livre, voilà, dit beaucoup sur ce qu'on va y trouver et sur l'intention qui était la tienne. Moi, je l'ai trouvé très bien, cette introduction. Et voilà, donc je voulais la partager. Est-ce qu'il y a un autre passage que tu veux nous partager?
Non, tu as raison, en t'écoutant, je me dis que effectivement, ça cristallise toute l'essence de ce que j'ai voulu mettre dans ces livres. Donc, je suis bien d'accord avec toi, c'est un très bon choix que tu as fait. Moi, j'avais choisi un extrait de texte, mais en fait, je sais que c'est plus fort, les mots que tu as lus, donc très bien.
D'accord, très bien. Ok. Ma question suivante, ça va être comment s'est passé le travail d'illustration? Donc, c'est les éditions Pour Penser qui t'ont présenté à Laura Aydon. Est-ce que vous avez travaillé ensemble? Est-ce que vous avez travaillé à distance? Est-ce que les illustrations sont arrivées après le texte? Comment ça s'est passé, le travail?
Alors, ça a été la surprise pour moi jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est la Maison pour penser qui a pris en main le côté illustration. Moi, c'est drôle, mais quand j'ai écrit ces textes, je n'avais pas du tout pensé qu'ils allaient être associés à un dessin. Dans ma tête, j'imaginais un objet un peu hybride, c'est-à-dire une petite mallette vraiment qu'on ouvrirait avec. Mais bon, je ne savais pas du tout si c'était réalisable. Et eux ont tout de suite pensé à Laura Aydon, à son univers extrêmement pur, enfin moi c'est je trouve, et puis ce trait naïf qui va très très bien avec les histoires et qui me rappelle moi les traits des livres que je lisais quand j'étais petite, donc dans les années 80-90, et j'ai trouvé ça très joli, la résonance très belle. Et ils ont associé Laura à ses textes, qui a bien voulu travailler dessus, et moi j'ai découvert l'ensemble de la proposition à la toute fin du process. Et j'ai bien aimé ça parce que comme je n'avais rien projeté, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai été cueillie par la tendresse du trait et puis par la poésie de ton univers. Et je trouvais ça très chouette. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé, mais c'était encore mieux, je crois.
D'accord. Ces dessins, ils font vraiment penser à des dessins d'enfants, les dessins de Laura Aydon. Ça met tout l'album à hauteur d'enfant, comme si vraiment c'était vraiment pour eux. Et vraiment, alors voilà, comme si c'était presque un enfant qui aurait grandi, mais un enfant qui n'aurait pas oublié l'enfant qu'il était, qu'il a écrit. Je ne sais pas si c'est clair. Et du coup, ça en fait un vrai compagnon d'enfance et pour grandir. Est-ce que c'était voulu aussi dans l'écriture de ce livre? Est-ce que c'est l'intention de ce livre qui a été respectée avec ces illustrations?
Ça a été, je sais pas si moi, encore une fois, je n'avais pas à ce moment-là, quand j'ai écrit les contes, j'avais pas du tout idée de graphisme ou d'image, j'avais rien qui me venait, mais j'ai trouvé ça extrêmement bienvenu, cette douceur et encore une fois cette tendresse qui émane de ces dessins. Et comme tu dis, des dessins à hauteur d'enfant, parce que évidemment, les sujets que j'aborde sont des sujets frontaux, même si moi aussi, j'injecte beaucoup de tendresse et de lumière au travers des chagrins que j'explore, mais je trouve que ces dessins extrêmement cotonneux et enrobants et accompagnants font très bien contrepoids à la complexité des chagrins que je décris.
C'est vrai, absolument. Comment s'est passée l'écriture de ce livre? Est-ce qu'il a fallu retourner en enfance pour l'écrire? Donc c'est un peu, comme tu disais, un peu les deux. C'était à la fois pour tes enfants et à la fois pour l'enfant que tu étais.
Oui.
Est-ce que tu t'es inspiré
Et puis,
des enfants qui t'entourent ou est-ce que tu t'es inspiré de l'enfant que tu étais? Est-ce qu'il a fallu retomber dans tes chagrins d'enfance pour épurer un peu et peut-être un petit peu pour l'écrire comme il faut?
oui, je précise, c'est vrai, j'ai dit que j'avais écrit pour mes enfants et pour l'enfant que j'étais, mais j'ai aussi écrit pour tous les enfants parce que quand je suis devenue maman, et j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de gens. On a le cœur qui s'ouvre et qui se multiplie. Et du coup, j'ai eu ressenti beaucoup d'amour pour tous les enfants. Donc, c'est vrai que j'avais aussi envie d'écrire un livre pour tous les enfants. Pour ce qui est de la question, effectivement, je me suis nourrie de chagrin que j'avais pu traverser moi. Ça, c'est vrai. Après, moi, j'ai une personnalité assez sensible. Je suis une éponge. Quand je suis dans un lieu public, je tends toujours l'oreille. J'essaye de me nourrir des propos à une terrasse de café. J'essaye de glaner en fait à droite à gauche des choses et j'ai l'impression d'absorber un peu le monde à l'intérieur et ce qui me donne le pouvoir de le restituer dans les textes. Du coup, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est comme ça que j'ai travaillé. C'est sans, j'ai pas pensé à un enfant en particulier, ni, enfin, je suis partie de mes émotions à moi, mais dans mon métier aussi, moi, je suis comédienne et autrice, donc et metteuse en scène, et je mène beaucoup de parcours de médiation, ce qui fait que j'ai la chance de rencontrer des tas de publics très pluriels, très divers, et de me nourrir aussi de leurs itinéraires de vie, de leur sensibilité, de leur parcours. Et ça rejaillit bien évidemment dans l'écriture. Donc j'ai l'impression d'être riche de témoignages et de paroles à la fois glanées comme ça dans la rue et en même temps de vrais partages que j'ai eus avec des gens au cours des différents projets que j'ai pu mener.
D'accord, donc un livre universel qui s'adresse à tous les chagrins.
Oui, c'est ça.
Ok. Comment vous travaillez? Est-ce que vous aviez un plan avec un plan défini? Je vais là et après je veux ça et après je veux ça et tout est balisé dans des fiches et dans une structure? Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure des chagrins et que ça s'est construit un peu au fil de l'eau, un peu à l'inspiration? Ça s'est passé comment? Comment est-ce que tu travailles?
Eh ben, il y a plusieurs écoles chez les auteurs et les autrices. Moi, je sais que j'ai une certaine méthodologie. Je ne peux pas travailler sans ossature. J'ai vraiment besoin de cathédraliser les choses en amont, c'est-à-dire de créer une ossature narrative. Et à partir de là, j'écris. C'est-à-dire que je sais, j'ai le début, j'ai le déroulé et la fin. J'ai besoin de cette structure-là pour pouvoir ensuite écrire le récit. Et en fait, j'avais listé les chagrins que j'avais envie d'explorer. Et puis j'en prenais un et j'architecturais une histoire. En général, ça passe par toujours par la création d'un personnage, d'un prénom. J'aime beaucoup les étymologies parce que ça raconte déjà quelque chose quand on choisit un prénom. Et ensuite, j'architecture le récit en quelques lignes et hop, je me lance dans l'écriture. Et en général, ça va assez vite parce qu'une fois que j'ai ce déroulé, les choses viennent assez simplement.
D'accord, donc une écriture structurée qui te permet d'avancer, voilà, d'avancer efficacement et de savoir où tu vas. D'accord.
Tout à fait. Et oui.
D'accord, très bien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir l'ambiance d'écriture. C'est-à-dire, c'est plutôt un bureau calme, avec un thé, entouré de fiches et de livres, ou est-ce que c'est un peu partout, n'importe où, dans la campagne, dans un train, dans une voiture un peu là où on peut, ça s'est passé comment l'écriture de ce livre?
Oui, cette question me fait sourire parce que quand j'ai commencé à écrire, moi, je ne pouvais pas travailler dans un cadre qui n'était pas extrêmement silencieux et puis clos, avec personne qui venait me déranger sans interférence. Et en fait, la vie fait que, en devenant maman, avec la vie qui va et puis tout son relief et tout le passage des uns et des autres dans la vie, en fait, j'ai dû apprendre, mais vraiment, ça a été un sacré exercice pour moi, à pouvoir travailler dans des contextes peu propices. Et j'en ris parce que c'est complètement cocasse, mais il se trouve qu'à l'époque où j'ai écrit le Pense-cœur, le papa de mes enfants souhaitait faire école à la maison, donc il avait gardé ma fille aînée à la maison, ce qui fait que il y avait souvent beaucoup de vie chez moi et que c'était pas très propice à l'écriture. Donc moi, j'ai migré sur ces temps-là. C'est assez étonnant, mais j'ai migré à Ikea dans l'espace café et c'était vraiment rigolo parce que il y avait toute une petite communauté. On était 3-4 à se réunir très régulièrement dans cette cafétéria. Mais pas dénué d'intérêt. Il y a du café à volonté et des toilettes. Ça compte hein, quand on écrit. Et j'allais écrire à Ikea. C'est compte. Voilà, c'était mon bureau, mon espèce d'open space. C'est un peu étonnant au milieu de ce monde de surconsommation et puis de meubles en kit. Mais moi, j'y avais trouvé une forme de paix. Il y avait une grande baie vitrée avec beaucoup de lumière et surtout, c'était un espace dédié. Et c'est vrai que, avec le temps, j'ai appris à écrire un peu partout. Par contre, j'ai vraiment besoin d'avoir du temps devant moi. Si j'ai 1 heure ou 2, je ne peux pas écrire parce que il faut laisser le temps à la pensée de se délier, de se dérouler. Et quand on a si peu de temps, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je sais que je peux écrire partout, mais par contre, il me faut une plage d'au moins 4-5 heures, sinon l'exercice est vain, en tout cas pour moi.
D'accord, c'est très original, la plage de 5 heures chez IKEA pour pouvoir avancer de Plansker, c'est parfait. C'est vraiment très, très rigolo et on remercie de la marque de meubles. Normalement, on ne fait pas de pub, mais on va la remercier quand même parce que le livre est très réussi, donc ça vaut le coup de se déplacer pour aller boire du café. très bien. J'ai encore une question. Quand vous étiez enfant, vous-même, est-ce que vous étiez une grande lectrice, une grande, voilà, est-ce que vous faisiez déjà du théâtre? Est-ce que vous étiez très appliquée à l'école, très structurée déjà, ou est-ce qu'il y en avait un peu de partout et les idées fusaient dans tous les sens et vous aviez le regard par la fenêtre pour se demander quand est-ce que c'était fini?
La littérature a toujours fait partie de ma vie, enfin toujours, ça peut sembler un peu étrange de dire ça, mais j'avais une mère qui était férue de littérature, et très tôt, moi, à 5-6 ans, elle écrivait elle-même sur une machine à écrire, je me souviens de ça, et moi j'étais fascinée, et j'ai écrit très vite mes premiers poèmes sous son bureau, vers 6-7 ans, et elle a pris très au sérieux mes premières productions, et ça a été un vrai cadeau. Parce que du coup, ça a complètement attiré mon attention et je n'ai pas arrêté de développer l'écriture. J'ai toujours beaucoup écrit et beaucoup lu. Mais j'ai lu fiévreusement à tel point que je me cachais la nuit avec ma lampe de poche pour lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature classique. Et j'aimais tant lire et écrire que je mentais à mes amis, en fait, je leur disais que j'étais pas chez moi, que je pouvais pas venir jouer avec elles pour pouvoir lire tranquillement chez moi. C'était vraiment la grande passion de l'enfance, la lecture et l'écriture.
D'accord, donc voilà, une vocation précoce de pouvoir lire, écrire et de se cacher pour lire tranquille. Ok, très
Tout
bien.
à fait. Et moi, je
Ok.
m'attendais à une vie d'ermite parce que j'avais remarqué que la pratique de l'écriture, c'était un acte très solitaire et puis très isolé. Et c'est vrai que la dimension du théâtre qui est arrivée avec le collectif et toute cette vie qui en a découlé, et ben c'est vrai que c'est assez formidable parce que ça me permettait d'être à la fois dans l'écriture et en même temps dans la vie. Et c'est pas mal le théâtre, ça aussi.
Ça permet d'écrire en équipe et de créer en équipe et de... Oui, tout à fait.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Si vous voulez, on va passer à vos projets. Est-ce que vous avez des projets dans les cartons? Est-ce qu'il y a des livres qui sont en train de s'écrire? Des livres ou du théâtre? Des choses à venir?
Eh ben super, c'est toujours chouette de parler des projets parce que ça me passionne et j'ai beaucoup de choses sur le feu. En termes de littérature, de production qui n'est pas du théâtre, parce que moi c'est 90% de mon temps professionnel est dédié à l'écriture dramatique et à la mise en scène, mais là je travaille sur un projet jeunesse qui s'appelle Les Somnologues et c'est un livre à destination des adolescents jeunes adultes. Et qui explore le sommeil. Voilà, c'est un institut de somnologie et avec des jeunes gens qui ont des aptitudes via la maladie du sommeil et qui développent des aptitudes et qui vont pouvoir aller naviguer entre les mondes. C'est le projet que je suis en train de développer en ce moment, mais à mon rythme et quand je le peux, puisque mon premier gagne-pain, moi, c'est donc l'écriture dramatique et en ce moment, je suis en train de créer l'Abouka, qui est une pièce dédiée à la question du harcèlement en milieu scolaire et qui a harnaché à la figure du bouc émissaire. C'est vraiment une pièce documentaire sur un récit contemporain d'une jeune collégienne, mais entremêlée avec la figure du bouc émissaire, la figure antique comment dire, infuse la pièce. Je suis en train de créer ça et c'est vraiment très chouette. C'est une pièce qui est destinée à être jouée en milieu scolaire, dans les salles de classe, avec le mobilier scolaire et au pied des élèves, et qui sera accompagnée d'un temps de médiation. Et par ailleurs, je suis très heureuse de ça. Je vais écrire le spectacle, enfin les spectacles d'un festival de rue à Langres, près de chez moi, puisque moi je vis à Dijon. Et ce sera une dystopie futuriste sur le Langres de 2284. Et qui jouera tout cet été dans les rues de Langres au mois d'août.
D'accord, très bien. Donc, plein de projets. On essaiera d'être, voilà, d'encourager les gens à aller voir le spectacle de rue à Langres. Est-ce que éventuellement il y a des salons où on peut vous rencontrer bientôt?
Et non, c'est vrai que j'en fais très peu des salons et je n'en ai pas de prévu.
D'accord, donc
Mais
il
je
faut
sais que je
absolument
peux
aller vous
parler.
voir au théâtre.
Chouette. Mais je sais que Laura Edon, dont je suis les actualités sur les réseaux, est très très présente sur beaucoup de salons et puis pour penser aussi,
Oui.
présente les livres régulièrement.
D'accord, très bien. Donc on suivra les éditions pour penser sur leur site internet et leur réseau et Laura Edon sur ses réseaux pour aller les rencontrer. Très bien. Est-ce que, si vous voulez, on peut passer à la tradition de cette émission qui est le portrait chinois?
Ça marche.
Alors, si le pense-cœur était un animal, ce serait lequel?
Alors, ce serait une créature hybride, ce serait un petit oiseau capable de se poser sur n'importe quelle épaule. J'aime bien cette idée-là qu'il puisse aller faire du bien à tout le monde. Et mais avec un plumage assez duveteux, proche de la peluche, quelque chose qui fait du bien, qui soit réconfortant. Donc, un petit oiseau étonnant, un oiseau peluche.
Un petit oiseau peluche pour tenir chaud, très bien. Si c'était un vêtement chaud, ce serait lequel?
Ce serait un poncho imperméable qui protège de la pluie, mais qui permet d'en profiter aussi parce que c'est vachement chouette de marcher sous la pluie.
D'accord, très bien. Si le pense-cœur était un élément sonore, un bruit, ce serait lequel?
Eh bien, ce serait le chant de la tourterelle. J'ai toujours trouvé ça extrêmement réconfortant de se réveiller le matin et d'entendre ce ouh, 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 ouh. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est comme si ça venait effacer peut-être les cauchemars de la nuit et qu'on se disait, tiens, voilà un nouveau jour et hop, ça repart, une nouvelle énergie. Ça me rappelle ça.
D'accord, la tourterelle, très bien. Si le pense-cœur était une chanson, ce serait quelle chanson?
Eh bien, ce serait la chanson du spectacle parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais au sortir du premier confinement avec ma compagnie, on a eu envie de parler aux enfants et on a adapté trois contes du Pense-Cœur pour la scène. Et il se trouve pour ce projet, on a été accompagné par un musicien qui s'appelle Nicolas Moret, dont la formation solo s'appelle Qui c'est? Et il a composé des chansons pour le spectacle du Pense-Cœur qui sont accessibles sur notre site internet. C'est www.loiseaumonde.com. Loiseaumonde, c'est le nom de ma compagnie. Et il y a une très jolie chanson qui ouvre le spectacle et qui parle du pense-cœur et des chagrins. Et c'était vraiment très joli. Donc le pense-cœur a sa chanson dédiée.
D'accord, donc il y a vraiment une chanson, il faut aller voir sur le site
Tout à fait.
pour aller écouter la chanson. D'accord, très bien. Et enfin, si le pense-cœur était une recette de cuisine, ce serait laquelle?
Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça devait se manger, je dirais que ce serait comme une espèce de biscuit un peu croquant à l'extérieur parce que c'est front, il y a des sujets frontaux, un peu âpres, qui craquent un peu. Et puis, avec beaucoup de moelleux à l'intérieur parce que, et j'espère que c'est comme ça qu'on le perçoit quand on parcourt les lignes que j'ai écrites, mais parce qu'il y a beaucoup de tendresse, de lumière et puis que ça montre que la souffrance n'est pas que de la souffrance, qu'elle peut aussi, si on en a les moyens, être une source d'enseignement et quelque chose qui nous permet de grandir un peu plus.
D'accord, très bien. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter sur ce livre auquel je n'ai pas pensé, des messages que vous avez voulu faire passer, des choses que vous voulez nous dire et que je n'ai pas évoquées?
Je voudrais simplement remercier la maison pour penser parce que ça a été assez formidable de tomber sur eux via ce projet et leur confiance, leur enthousiasme très, enfin, c'était un peu magique parce que j'ai envoyé le texte à la maison pour penser et puis 24 heures après, j'avais une réponse avec Aline qui m'appelait, Aline, la directrice de la maison et qui était très enthousiaste et voilà, c'était merveilleux de trouver, que ce projet trouve écho auprès de gens si chouettes et si jolis humainement parlant. Voilà,
D'accord,
je les remercie.
le message est passé. Le message est passé, c'est parfait. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On conseille le Pense-Cœur aux éditions Pour Penser avec voilà, tous ces jolis contes qui permettent de réparer les chagrins des enfants. Merci beaucoup. Et puis on essaye
Merci.
de surveiller les réseaux pour voir les pièces de théâtre et aller voir sur le site de Loiseau Monde, c'est ça? Pour aller écouter la
Tout
chanson. Très bien, merci
à fait.
beaucoup. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt.
Mes petits et mes grands listes en même temps, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours sur ChatFM 91.2.